France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment réussir son grand ménage de printemps pour être bien chez soi, rangé pour se sentir mieux et mieux vivre dans un intérieur apaisant? Comment s'y prendre quand on n'a pas la force de s'y mettre, quand la motivation est à zéro? Nettoyer à fond du sol au plafond, oui, mais avec quels produits naturels? Quelles astuces efficaces pour venir à bout des graisses qui encrassent une hôte? Se débarrasser des poils d'animaux pour rendre étincelant les joints du carrelage de sa salle de bain? Quels sont donc les ingrédients essentiels à détenir dans ses placards et comment ranger sa maison avec méthode et sans prise de tête pour mieux respirer? Nos invités sont là pour vous répondre au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Eh bien, cette pièce, chez toi, en général, elle va terminer dans le plat que tu as dans l'entrée. Dans lequel il y a plein de choses que tu sais pas quoi faire avec, mais tu veux surtout pas les jeter. C'est très important. Dedans, t'as des trucs incroyables. T'as des petites clés de valise que les valises, tu les as plus, mais tu veux pas jeter les clés. C'est important. T'as un stylo, il écrit pas depuis 6 ans, il est là. Tous les jours, tu dis, non, pas celui-là, il écrit pas. Ah, c'est vrai, pardon. Ah, c'est vrai, il écrit pas celui-là, c'est celui qui n'écrit pas. Il faut le laisser, faut pas toucher. T'as des numéros de téléphone sans le nom des gens. T'as des piles, elles sont mortes, elles marchent plus, mais tu les gardes. Et surtout, t'as des petits sachets avec des boutons que quand t'as acheté le costume, t'as dit, on sait jamais, je les mets là, dans ce plat.
Et vous avez évidemment reconnu Gad Elmaleh. On va vous aider à ranger cette fameuse boîte fourre-tout que nous avons tous à la maison. Bonjour Lina Medjoberana.
Bonjour Ali.
Vous êtes coach en organisation et vous publiez chez Larousse 30 jours pour trier, ranger, respirer. Bonjour Alexandre Cressiot.
Bonjour Ali.
Surnommé le viking du ménage, solide breton qui participe à l'émission Cleaners sur TFX. Et vous aviez publié l'an dernier chez Le Duc, et ça j'en fais quoi? Et ça j'en fais quoi? Et ne jetez plus l'éponge. Et le dernier c'est, et ça j'en fais quoi?
Et entre les deux, il y a les recettes prodigieuses du viking du ménage.
Exactement. Bonjour Marie-Pierre Dillenzeger.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Boston aux États-Unis et vous publiez chez Robert Laffont « Bien chez soi, 23 pratiques pour trouver la paix, l'énergie et sa place ». Alors, le grand ménage de printemps, c'est une tradition annuelle dans beaucoup de familles. Le problème, c'est que nettoyer de fond en comble son intérieur, ranger, ça peut effrayer, ennuyer, on peut n'avoir ni l'envie, ni la force de s'y mettre. Et c'est très banal de ressentir ça, Alexandre Cressiot.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est très banal de se sentir un petit peu démuni face à l'ampleur de la tâche.
Ça peut même créer une petite souffrance psychologique, ouais, de se dire, et une culpabilité, de se dire, voilà, ma maison n'est pas rangée, c'est un peu le foutoir, et j'arrive pas à me motiver pour ranger tout ça.
Eh ben, on a des solutions toutes simples et toutes trouvées pour pouvoir se motiver à faire un bon ménage de printemps.
Comment on explique cette culpabilisation, vous, dans vos émissions Cleaners? J'imagine que vous croisez, parce que vous aidez des personnes à mieux ranger, à nettoyer des maisons qui ont été un peu laissées à l'abandon. Ouais. Il y a souvent de la culpabilité et une estime de soi un peu atteinte.
Complètement. Là, on est vraiment dans un extrême. Quand on intervient, en tout cas en tant que cleaner, on est sur des personnes qui ont laissé un petit peu à l'abandon la totalité de leur entretien de la maison, voire de leur entretien à eux personnellement, et ça devient compliqué. Donc effectivement, nous...
On n'est pas dans le syndrome de Diogène.
On n'y est pas, mais on a
le syndrome
vraiment...
de Diogène, qui est un syndrome d'accumulation extrême d'objets dans sa maison.
Et compagnie, voilà, on collectionne, et là on est vraiment dans les extrêmes. Nous, on intervient vraiment à temps. Et du coup, il y a beaucoup d'astuces à donner à ces personnes qui sont un peu en perdition ou en chute libre face au ménage et à l'entretien de leur chez-soi. On va en parler, mais il y a une multitude d'astuces.
Comment vous expliquez cette absence de motivation, Lina Medjoberana, face au rangement?
En fait, c'est le bazar, tout simplement. Ce qu'on disait un petit peu, c'est que...
ranger, c'est une thérapie. Donc, lorsqu'on est acculé face au superflu, au bazar, on est tellement tétanisé qu'en fait, ça nous handicape. Et on ne se rend pas compte que lorsqu'on rentre dans une étape de tri, eh bien, ça fait du bien. Parce que ranger autour de soi, c'est une manière de ranger sa tête et surtout l'intérieur de soi. Et on se sent mieux après.
Vous considérez que c'est une forme de thérapie, évidemment, entre guillemets, Alexandre Cressiot, de ranger de fond en comble, de nettoyer.
Complètement. On est vraiment dans la thérapie. Alors, il faut l'interpréter comme ça, parce que c'est pas évident pour tout le monde de se mettre dans l'acceptation de ce qui va nous arriver, parce que c'est une tâche, quand on est vraiment débordé, de se retrouver face à l'ampleur des dégâts. Mais il y a plein de petites solutions, comme ne pas tout essayer de faire d'un coup. Vraiment. Oui. Déjà, ça, c'est la première
des choses. Ça, c'est la grande règle.
Ouais, c'est la grande règle. Vraiment faire petit à petit, se mettre une heure pour commencer un samedi. Tiens, je vais attaquer la salle de bain, je vais désencombrer, trier. Il y a plein de petites solutions pour...
Tout ça fait.
Et d'ailleurs, c'est l'objet de votre livre, Lina Medjeburana, c'est vous proposer aux lectrices et aux lecteurs un mini-challenge pour réorganiser sa maison en 20 minutes par jour.
Exactement.
Pendant un mois.
Exactement. En fait, l'idée m'est venue l'année dernière, lorsque j'ai fait un grand ménage du printemps. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager ces vidéos sur mes réseaux ? Et j'ai vu un tel engouement de la part de mes abonnés, en fait, que j'ai réalisé qu'on est quand même dans une société où l'on est constamment acculé, constamment surchargé. Et il y a toujours quelque chose qui revenait, c'est « Lina, j'ai pas le temps ». Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas écrire un livre, des petits défis chaque jour qui soient accessibles ? Et finalement, quand on passe à l'action, on a forcément un résultat immédiat. Et quand on a un résultat immédiat, on a une satisfaction immédiate. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en nous, c'est qu'il y a une joie, une fierté, et ça nous donne l'élan pour continuer.
Tiens, Marie-Pierre Dillenzeiger, comment expliquer cette joie justement dont parle Lina Medjeburana quand on range, quand on nettoie à fond son intérieur ?
Alors, la joie est le signe d'une vitalité qui peut enfin s'exprimer. Hein, et le travail du rangement, qui est bien souvent assimilé à une corvée, est associé à du lourd, à du difficile. Or, la politique des petits pas, dont Alexandre parlait il y a quelques minutes, de ne pas faire tout de suite, est ce qui permet d'avancer petitement, mais sûrement, dès lors qu'effectivement c'est répété sur la durée. Et le lien qui est fait avec la thérapie, je pense qu'il est très juste, mais également dans notre capacité de résister à ce qui va nous faire du bien, quand bien même nous le savons.
Alexandre Cressiot, une maison propre et bien rangée procure une forme de bien-être chez nombre d'entre nous et des études scientifiques corroborent cette idée.
Tout à fait, tout à fait. On a une étude en particulier qui se dégage et qui dit que faire 20 minutes de ménage par semaine, ce qui est vraiment pas énorme, revient à une bonne dizaine de séances chez le psy. Vraiment, on se libère, on se fait du bien à l'esprit, on dégage un petit peu son intérieur et on y revoit plus clair. Donc vraiment, on est dans quelque chose d'utile, on est dans quelque chose de pratico-pratique.
Et vous, à titre personnel, Alexandre Cressiot, comment est venu ce goût du ménage, du rangement ? Expliquez-nous un petit peu.
J'ai toujours été un tout petit peu maniaque quand j'étais petit dans ma chambre. J'avais mes mangas, fallait que ce soit aligné, carré, posé correctement. Je nettoyais mon ghetto blaster avec un cure-dent.
Ah oui.
J'étais mes cassettes, mes bandes de cassettes, puisque je suis des années 80. Donc oui, les cassettes, pour les jeunes qui connaissent pas, c'est un petit truc qu'on met dans une boîte et qui fait de la musique. Je les nettoyais au coton-tige. Enfin vraiment, j'étais déjà piqué. Pourquoi, je sais pas. Je suis hypersensible aujourd'hui, ça je le sais. En tout cas, ça doit venir de là. Et puis, ça s'est amplifié avec la cuisine quand j'ai commencé à l'âge de 17 ans, où là, toutes les normes HACCP, toutes les normes d'hygiène pointues sont venues s'entrechoquer avec toutes mes connaissances de base du ménage.
Donc, on pouvait venir manger dans votre restaurant les yeux fermés. C'était d'une propreté absolument étincelante.
Ouais, complètement. On pouvait manger par terre.
Et vous, Lina Medjeburana, comment est né ce goût de l'organisation, du rangement, du ménage ?
Alors moi, il y a eu un tournant dans ma vie, c'était en 2012. Je pense qu'on vit tous un tournant quelque part. Et en fait, j'ai quitté la France. Donc je suis partie à l'autre bout du monde. J'ai donné 90% de mes affaires à des personnes qui étaient dans le besoin. Et j'avais juste un sac à dos. Donc c'était ma petite maisonnette et j'ai vécu comme ça pendant 3 ans. Et en fait, j'ai réalisé qu'on pouvait vivre mieux avec moins. Donc, à partir de là, eh bien, j'ai suivi toute une certification. Et c'est vrai que depuis toute jeune, eh bien, comme Alexandre, j'ai toujours aimé ranger. Donc, en fait, je me sentais bien que lorsque c'était rangé. Je ne pouvais pas faire mes devoirs si ma chambre, il y avait quelque chose qui dépassait sur mon bureau. C'était pas possible.
Votre regard, Marie-Pierre Dillenzegger.
Je veux revenir sur le bien que peut nous faire le rangement. Lorsque nous nous mettons à bouger, nous mettons à nettoyer ou à ranger, en fait, nous bougeons. Notre corps se met en mouvement plutôt que d'être assis à regarder tout ce qui reste à faire. Et que cette mise en mouvement du corps, en tout cas dans les pratiques traditionnelles chinoises qui sont mon angle de lecture, permet à notre vitalité, à notre énergie de s'exprimer. Donc, il est aussi possible de voir ces activités comme un véritable exercice physique.
Mais vous avez raison, parce que j'ai sous les yeux le livre d'Alexandre Crécieux, Ne jetez plus l'éponge, et on le voit faire des fentes avant et arrière avec son balai, et vous en profitez, Alexandre Crécieux, pour faire du sport.
Ouais, tout à fait, mais c'est un moyen comme un autre de se dépenser, les tâches domestiques, faire le ménage, l'entretien de chez soi.
On se sent mieux après avoir récupéré son intérieur de fond en comble, mais il faut le dire, ça apaise également les relations familiales. Le rangement et le ménage sont des sources de conflits permanentes dans le couple et au sein de la famille, Alexandre Crécieux.
Complètement. Quand il y a une mauvaise répartition des tâches, on est sur un pied d'inégalité. Bien souvent, et il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, 8 femmes sur 10 en France, et je pense dans le monde entier, sont en charge donc, des tâches domestiques, en plus de leur charge mentale et du boulot, ce qui fait beaucoup pour une seule personne, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 20 ou au 18e siècle où les femmes étaient au foyer. Maintenant, les femmes travaillent comme tout le monde, comme les hommes. Et donc, il y a une mauvaise répartition et c'est un ancrage qu'il faut vraiment briser.
Et c'est une source de conflit infini. Je connais une personne qui a décidé de ne plus vivre avec sa moitié. Ils sont toujours ensemble, mais ils ne vivent plus au même endroit parce que les conflits liés au ménage, au rangement, étaient récurrents. Medjeberana, sur le fait que le ménage, la bonne répartition des tâches permet quand même d'apaiser les conflits familiaux ou conjugaux.
Oui, exactement. Et moi, ce que je préconise souvent lorsque j'aide mes clients justement à désencombrer, à ranger, c'est, enfin, après avoir trié, d'essayer de réfléchir sur le type de rangement qu'ils veulent. C'est-à-dire ne pas se focaliser sur ce qui fait sens pour eux, mais c'est sur ce qui fait sens pour la famille. Parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où on va ranger pour les enfants, on va ranger pour le conjoint, et du coup, la charge mentale, elle va être accrue, quel que soit le tri ou l'organisation que vous aurez effectué.
Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, adepte du ménage et du rangement ou pas du tout ?
Absolument. Adepte du rangement.
Pas un côté Brivant de Camp
pas
chez vous.
Pas un grand fan du bazar. Assez rassuré quand les petites piles sont mises sur le bureau, quand les petites piles de livres et les petites piles de magazines, en effet, sont bien en place. Et en effet, je suis un homme qui fait des piles de choses.
Et vous vous sentez donc à l'aise dans cet environnement,
absolument,
là, dans ce studio ?
Absolument. Je ne me sens pas étranger.
C'est déjà très bien rangé devant lui.
Oui, hein. C'est très bien rangé. C'est vrai que c'est rangé devant votre micro.
Mais chaque stylo a sa place.
Et votre chronique, les Français mode d'emploi, ça sera vers 11h20. Quel est le menu ?
Là, on s'interroge sur est-ce que les Français ont encore le temps, pour le coup, et de la disponibilité pour ranger et faire le ménage. Nous, on va s'interroger sur la question est-ce que les Français ont encore le temps de lire ? Et est-ce qu'ils ont encore la disponibilité mentale pour lire ? La réponse est non, mais on va en parler.
Ah oui, il y a cette étude absolument terrible du Centre National du Livre. Vous évoquerez évidemment cette étude tout à l'heure.
Ali Rebelli.
Mais non, si on fait le ménage, on fait vraiment bien ou on le fait pas ?
Grand bien vous fasse.
Ah, t'as raison, on le fait pas.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment réagir, comment réussir son grand ménage de printemps et réagir face au bordel, face au foutoir chez soi, avec Alexandre Crécieux, alias le Viking du ménage, avec la coach en organisation Lina Medjeberana et avec l'autrice Marie-Pierre Dillenzegger.
Je vais chercher nos baguettes magiques. Très chère, avouons qu'elle a raison. Les voilà! En parfait état! Attention, prudence, Paprenelle! Instruments, approchez, seau, serpillière, balai! À vous de faire le ménage!
extrait de La Belle au bois dormant, si le ménage pouvait se faire tout seul. Alors, Marie-Pierre Dylan Zegger, je rappelle que vous avez publié Bien chez soi. Pour vous, être bien chez soi, ce n'est ni le fruit du hasard, ni l'effet du pouvoir d'achat. Le plus important pour vous, c'est d'écouter son ressenti. Et écouter ses ressentis, c'est essentiel pour se débarrasser des objets inutiles à la maison.
Oui, parce qu'en fait, chez nous, c'est chez nous. Donc, c'est nous, quel que soit ce qui peut être dit comme recommandation, comme injonction, quant à comment chez nous devrait être, nous sommes les seuls véritablement autorisés à trancher. Et l'enjeu sur le ménage est de créer de la motivation. Parce que nous savons bien que la raison ne fonctionne pas toujours. On peut se forcer, mais on ne va pas y arriver. Donc, pour créer de la motivation, je proposerais deux astuces. La première, même si ça peut paraître un petit peu surprenant, c'est de se centrer sur le plus facile d'abord. Parce que le plus facile a un effet immédiat. L'effet immédiat crée de la satisfaction. Et de la satisfaction permet d'engendrer de la motivation. Et deuxièmement, de se centrer éventuellement, quand on est vraiment découragé, accablé, on ne sait vraiment pas par où commencer, de se centrer sur ce qui permet de faire entrer de la lumière. Plus il y a de la lumière, alors d'un côté, plus on va voir, plus Alexandre va voir où est la poussière, mais plus la lumière rentre, plus nous sommes incités à agir, au simplement parce que la lumière fait bouger.
Complètement. Alexandre Crécio, alias le viking du ménage, quand on n'a pas envie de se lancer dans un grand ménage de printemps, un grand rangement, il est bon de se demander quel est mon problème. Ouais. Et vous avez plusieurs profils que vous avez dessinés dans votre livre. Ouais. Par exemple, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « j'ai pas le temps de faire le ménage, de ranger, j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes »
Eh bien, les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps... Les personnes qui disent, pardon, qu'elles n'ont pas le temps, je leur propose des petites astuces à mettre en place au quotidien pour pouvoir justement trouver le temps. Tout simplement, une petite quantité par-ci, une petite quantité par-là, commencer par des choses très basiques.
C'est la technique du salami, c'est de découper en petites tâches.
Tout à fait.
Voilà, plutôt que de se lancer dans un gros rangement d'un coup, comme le disait tout à l'heure Lina Medjeberana. Il y a aussi les personnes qui vont pouvoir vous rétorquer, mais je ne sais pas comment faire.
Et bien pareil, de la même manière, je propose en tout cas dans mes livres des petites alternatives pour trouver justement les bonnes manières et pourquoi pas essayer de commencer à faire un ménage au naturel, en utilisant des produits naturels pour créer ces produits maison.
Ça peut être motivant, justement, très motivant, de fabriquer soi-même ces produits ménagers.
Complètement, on est sur une partie économique où vraiment on va plus couper un bras. Aujourd'hui, le marché de l'industriel, en tout cas ménager, c'est 6 milliards d'euros en France, et ça c'est énorme. On peut diviser, en tout cas dans notre portefeuille, le budget moyen d'un Français, c'est 75 euros par mois de produits d'entretien. En comptant la lessive de bidon de 4 litres. On peut la fabriquer soi-même, ça coûte 50 centimes. Se faire des petits plaisirs comme ça en se disant, bah ouais, je vais déjà dégraisser un petit peu ma note et faire des économies, ça peut être motivant.
On peut vous dire, Alexandre Crécio, ça m'ennuie, c'est une corvée et je déteste cette routine du ménage.
Aussi, alors là, j'ai encore des petites techniques pour pallier à tout ça, comme justement se lancer des petits challenges en famille, quand il y a du monde à la maison, quand on a des enfants. Faire s'intéresser les enfants au ménage, monsieur aussi a le droit de participer, créer des challenges.
C'est pas qu'il peut, il doit.
Non, mais c'est un peu avec 4 points d'exclamation derrière et en majuscule. Il y a plein de petites techniques à mettre en place. Mettre de la musique, par exemple, se mettre une playlist qu'on adore.
Mais nous, ce qu'on faisait quand on était petits, on était 5 enfants et ma mère nous challengeait. Bah, voilà. Elle nous donnait des pièces à faire et c'était le concours de celui qui allait ranger, nettoyer la maison du mieux possible. Et tout ça en musique, c'est vrai que c'est très, très motivant. Vous, Marie-Pierre Dylan Zegger, vous conseillez de faire de la corvée, de transformer ça en rituel.
De ritualiser la corvée. Parce qu'une chose qui est faite régulièrement et qui est considérée comme étant ce que votre maman vous demandait, qui est un challenge, un défi régulier, est beaucoup plus facile. Parce que là, on parle du ménage. coach, mais on entend aussi, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de bouger, je n'ai pas le temps de lire, comme l'émission qui va suivre. Or, la mise en place de routine, même si ce mot paraît bien barbant, la mise en place régulière des mêmes tâches au même moment chaque jour, ou au même jour chaque semaine, facilite l'habitude. Hein, la ritualisation rend la tâche, pas moins enquiquinante au départ, mais facilite notre capacité de la continuer et de la prolonger dans le temps. C'est ça qui est important. Parce que, oui.
Non, ouais. C'est intéressant. Notre réalisatrice Claire Destacan me disait dans le casque que c'était moi, que j'imagine qui gagnait ce défi. Oui, je gagnais ce défi très régulièrement. Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Oui, je m'interrogeais en vous écoutant s'il y avait quelque chose à voir également avec la procrastination qu'on observe notamment chez les gens qui se disent phobiques administratifs. On avait consacré une émission il n'y a pas si longtemps que ça à ce sujet, et finalement on se rend compte que tout ce que vous évoquez dans les constats, dans les profils, en effet, qui sont touchés par le fait de ne pas ranger, par le fait d'être totalement noyé par ce grand bazar, ben finalement, il y a des choses quand même assez communes qu'on retrouvait aussi chez les gens qui disaient, bon, finalement, la tâche administrative, ce papier, c'est un peu barbant, c'est un peu pénible, c'est quelque chose de difficile, et donc, je le remets à plus tard. Et donc, il y avait aussi quelque chose à voir, en effet, avec les procrastinateurs, et je voulais, du coup, savoir si vous aviez ça dans vos profils, est-ce que c'était d'abord, avant tout, aussi des gens qui procrastinaient et finalement qui disaient bon, l'appartement finalement demain pourra très bien être rangé, il n'y a pas d'urgence absolue.
Exactement. Alexandre Crécio.
Oui, il y a tout à fait, bravo, belle analyse. Il y a beaucoup de procrastinateurs dans le ménage, dans le rangement, dans l'entretien, je pense que on connaît ces profils-là, on a tous un pote qu'on vient chez lui, on arrive, c'est un peu le souk,
je ne citerai pas de nom.
On va boire un café, vas-y, viens, on va boire un café, la vaisselle-là, le lit n'est pas fait.
C'est un cauchemar pour vous.
C'est un cauchemar avec les enveloppes qui ne sont pas ouvertes, enfin, du moins les courriers qui ne sont pas ouverts. Mmh. Effectivement, il y a une grosse part de procrastination, mais il y a toujours plein de petites méthodes pour éviter ça, pour s'éviter ça. Parce qu'au début, c'est rigolo. Mmh. Et puis à terme, en fait, ça devient quelque chose de très envahissant.
Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces procrastinateurs une première petite méthode, peut-être, pour vraiment se mettre en mouvement?
Très, très, très simple. Le basique du basique, c'est tout ce qui peut être fait le jour même. Mmh. On doit le faire maintenant. Tout ce qui peut être fait en moins de 5 minutes, on le fait maintenant. S'ajouter des petits mantras au quotidien, comme la tasse de café qui reste le matin après le petit-déj qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Et rinçage, un peu d'eau dedans, posé sur l'évier qui sèche, on revient, on l'arrange. Enfin, on revient du boulot, on l'arrange. On a toujours 5 minutes pour faire un tout petit peu à la maison.
Marie-Pierre Dillenzeger.
Oui, je voudrais rebondir et presque prendre un contre-pied, justement, quand on parle de procrastination. Je pense qu'il est aussi important de ne pas culpabiliser ceux et celles qui n'y arrivent pas. Hein. Et j'ai toujours tendance à dire, vous n'y arrivez pas pour le moment, c'est OK. Vous êtes dans une phase de vie où ce n'est pas encore facile, désirable et possible. Et je pense que nous devons le respect de ce qui se cache derrière par rapport à ces papiers qui s'accumulent. Ce sont des deuils qui n'ont pas été faits. Des deuils d'un traumatisme précédent, des deuils d'un accroc majeur avec l'administration. Et le temps du deuil n'est pas compressible ni réductible à un forçage, en fait, hein, du rangement. Et donc ça, je pense que nous avons à tolérer, et parfois même avec nous-mêmes, ne pas nous reprocher de ne pas avoir encore fait, et de reporter ce qui peut être fait aujourd'hui à demain. Dans certains cas, donc je prends un contre-pied, dans certains cas, et seule la personne le sait, cela doit être respecté. Parce que l'énergie que nous n'avons pas aujourd'hui, elle est peut-être simplement montante, et oui, les astuces vont aider, mais ce qui compte sur le long terme, c'est que cela soit fait un jour.
Lina Medjeberana.
Oui, je suis entièrement d'accord, il faut surtout...
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne font rien parce qu'ils se disent, après tout, ça ne sera jamais parfait?
Alors justement, moi je suis plutôt d'avis, la perfection n'existe pas. Donc je considère que si dans notre vie, on a des saisons où le chaos existe, alors il faut d'autant plus accepter que le chaos peut exister chez nous. Sauf qu'on a le contrôle sur nos pensées. Je dis souvent, ok, soit tu as un bazar devant toi et tu te dis, est-ce que j'accepte que ce bazar est passager ou est-ce que je décide qu'il est permanent? Et là, c'est tout à fait différent. Parce que si je me dis que ce bazar est passager, c'est que j'ai déjà le contrôle dessus. Et du coup, je vais me mettre en action. Vous voyez ?
Alexandre Crécio, il ne faut pas oublier que le désordre, ça peut rassurer. Certains ont besoin d'un certain désordre pour se sentir bien.
On a aussi des personnes qui se sentent bien dans un certain désordre. J'ai vécu longtemps en colocation.
N'hésitez pas à nous appeler les colocataires.
Je ne sais pas les noms. Mais je pense que s'ils écoutent, elles se reconnaîtront. Elle se reconnaîtra en particulier. Et c'était son petit bordel joyeux, quoi. Elle savait où chaque chose était, chaque chose à sa place, et une place pour chaque chose. Mais là, c'était vraiment trop, quoi. Et moi, je passais derrière comme des petites mains, je nettoyais, je tentais de ranger, de maintenir le truc, le bateau.
Jérémy Pelletier.
Oui, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est le fait que par définition, quand il y a du bazar, on ne retrouve plus un certain nombre de choses. Ouais. On perd des choses. Est-ce que il n'y a pas aussi quelque chose de jouissif dans le fait de ranger, c'est-à-dire le côté un peu sérendipité. Vous allez découvrir des choses que vous aviez oubliées, des choses que vous ne pensiez même plus posséder, des choses que vous cherchiez il y a de cela 6 mois ou 1 an et que vous allez prendre beaucoup de plaisir là à retrouver.
Et vous vous rendez compte que vous l'avez acheté en triple.
Absolument, vous vous rendez compte évidemment que vous l'avez acheté en triple. Vous vous rendez compte que ce t-shirt-là, ce n'est pas un ami à vous qui vous l'a volé, mais c'était simplement mal rangé, sous votre lit ou que sais-je. Il y a quelque chose aussi de l'ordre peut-être de la sérendipité qui fait que ça peut être aussi jouissif et très plaisant finalement de ranger parce qu'on redécouvre que nous sommes possesseurs de beaucoup d'objets.
Complètement.
Un premier défi, Lina Medjeberana, quand on a la flemme de ranger, on peut commencer avec la boîte fourre-tout évoquée par Gad Elmaleh au début de cette émission. On a tous ce genre de bric-à-brac qui s'accumule. Allez, quelques conseils pour ranger enfin cette boîte fourre-tout.
Alors, y aller par petits pas. On peut. Alors, on n'a pas qu'une seule boîte fourre-tout chez soi. On en a plusieurs. Peut-être même, une par pièce. Et en fait, cet objet, c'est un petit peu un aimant à objets en tout genre. Comme l'a dit Gad Elmaleh, on va retrouver des pièces de monnaie, des piles, des boutons, un câble, exactement. Et le but, c'est. Alors, pourquoi il est si compliqué de ranger cette boîte fourre-tout? C'est parce qu'en fait, c'est juste. Dans cette boîte, on retrouve plusieurs pièces de la maison. Par exemple, si on va retrouver un petit jouet de l'enfant, on sait qu'il faudra le ranger dans la chambre de l'enfant. Un câble, ça va être peut-être dans le salon. Le papier, dans le bureau, etc. etc. Donc le but, c'est de prendre cette boîte, de se dire, quelle boîte me chagrine le plus aujourd'hui chez moi? Genre, elle déborde, quoi. Ne surtout pas la transformer par une boîte plus grande. Parce qu'alors là, c'est...
Non, on l'a rempli encore.
Exactement. Et donc, la vider... Et puis, y aller de manière drastique au niveau du tri.
Une fois qu'on a fait un petit pas avec cette boîte fourre-tout, on peut s'attaquer aux fournitures usées. On a tous des fournitures usées qui traînent partout, de l'entrée à la cuisine en passant par la chambre à coucher. Quels sont vos conseils?
Eh bien, justement, tout à l'heure, on parlait des défis avec les enfants. Eh bien, ça, c'est un défi que mes enfants adorent faire. Donc, je leur dis, allez, on va regrouper tous les crayons, les feutres, les stylos. Et puis, chacun a une feuille blanche. Et puis, on va tester tous les stylos, les feutres. Et c'est extraordinaire parce que déjà, en fait, ils font du coup de l'art sur cette feuille. Et en fait, ils sont fiers d'eux. Donc c'est quelque chose, on se rend compte, qui est très facile à faire, mais on ne prend pas le temps de faire. Et on peut faire très vite un beau tri là-dessus.
Alexandre Crécio, dans votre premier livre « Ne jetez pas l'éponge », vous aviez répertorié quelques astuces pour lutter contre ces a priori sur le rangement et le ménage. Ouais. Ne pas culpabiliser, on l'a dit, se fixer des objectifs réalisables, travailler en équipe, ranger et nettoyer au fur et à mesure. Et faire les choses bien ou ne pas les faire.
Exactement. Hein? Moi, je suis partisan du soit tu fais, mais tu fais bien, soit tu fais pas du tout, parce que ça sert à rien en fait de commencer ou d'entamer une tâche et de ne pas aller au bout, ou alors de se dire attends, je vais faire ça rapidement là. Attends, vite fait, j'ai pas le temps. On verra demain. Encore une fois, je ferai mieux. Mais oui, on peut le faire en soi si on fonctionne comme ça et que ça marche oui, mais la plupart du temps, c'est voué à l'échec.
Et pour éviter l'accumulation d'objets, il y a une très bonne méthode, c'est un rentré, ouais. un deux sorties. Notre camarade chroniqueur Julien Bisson, qui a une très belle bibliothèque, à chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui arrive à la maison, il enlève un livre de sa bibliothèque pour ne pas accumuler trop de livres. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile à faire, mais c'est vrai que c'est un principe important. Oui. Un objet qui rentre, essayer de se dire qu'est-ce qui sort ? Qu'est-ce que je peux donner ? Qu'est-ce que je peux échanger, troquer ?
Complètement. C'est valable pour tout objet, en fait. C'est, que ce soit du livre, en plus, le livre, c'est vachement bien parce que ça permet au livre de vivre et de partir dans d'autres mains, etc. Mais on peut aussi parler d'un meuble. Oui. Si on veut changer la commode de l'entrée pour acheter une plus belle console, ben justement, la refourguer, les recycleries. Il y a toujours une deuxième main derrière qui peut réutiliser. On n'est pas obligé. Alors, si on a besoin d'un peu de monnaie, on peut se faire un petit billet dessus. Mais si on n'a pas besoin, ben on l'envoie dans une recyclerie.
Et puis un objet qui entre, qui sort, c'est quand même un moyen en fait d'avoir le contrôle sur la superficie de notre placard. Je dis souvent, ton appartement, ton placard, il va jamais s'agrandir. Donc il faut toujours avoir. Il est tellement plus simple d'accumuler, mais prendre le temps de trier. C'est quand même important.
Jérémy Pelletier.
Il y a quelque chose en fait de très écolo dans le fait de ranger. Oui. C'est un terme qu'on n'a pas encore employé, mais en fait, il y a un lien aussi avec une société qui range. C'est une société plus écolo, plus sobre, parce que, en fait, et vous le dites, qui consomme moins, qui possède moins et qui utilise ce que vous avez évoqué, en l'occurrence, les recycleries. Le sujet des livres est un très bon sujet aussi. En fait, il y a un lien entre société plus écolo et société qui range.
Complètement. Ouais. Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, je parlais d'éco-responsabilité parce qu'on est vraiment dans... On se responsabilise face à quelque chose d'immense qui nous dépasse tous. L'écologie, je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Mmh. Alors, on fait tous notre part, comme le petit colibri. Mais effectivement, le don, donner des objets à des personnes qui en ont plus besoin, eh ben, on va se débarrasser de certaines choses. On va éviter de consommer plus en donnant. Voilà, à des personnes qui en ont besoin.
Il y a de plus en plus de recycleries.
Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Enfin, je ne vais pas citer les noms, mais il y en a énormément et de plus en plus. Et il faut apprendre. Parce que ça s'apprend aussi. C'est pas quelque chose qui est inné de se dire ouais, je vais trier et puis je vais donner. Il faut se renseigner, savoir où on envoie, quel organisme, etc.
Bonjour Rosemary, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quelle est votre question, votre témoignage ?
Alors voilà, bonjour à tous. D'abord, merci pour votre émission que je suis régulièrement.
Merci beaucoup.
Très, très intéressante. Et alors aujourd'hui, c'est d'autant plus intéressant que c'est un gros problème pour moi. Ranger, me motiver pour ranger, tout ça, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai du mal, j'ai l'impression que j'enlève quelque chose de ma vie. Quand je vais me séparer, la notion de deuil, la notion de retrouver et d'avoir ce plaisir lorsque je vais oublier un objet puis le redécouvrir, donc tout ça c'est très juste dans ce que je ressens. Mais aujourd'hui, à 66 ans, j'ai accumulé plein de choses. Mes enfants veulent rien, parce que les jeunes d'aujourd'hui, le service en porcelaine de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère.
Moi, je le veux bien, le service en porcelaine de la grand-mère. Et autour de la table, on est nombreux à le vouloir. Hein.
Écoutez, hors émission, je vous proposerai, parce que là, vous voyez, présentement, je suis devant ce carton, parce qu'on a fait la cuisine. et je ne sais pas.
Je ne suis pas venue pour rien ce matin, tiens.
Il y a une place. Et pourtant, je suis quelqu'un qui donne. Je suis quelqu'un qui n'a aucun problème pour donner, pour aider. Mais c'est un renoncement auquel j'ai beaucoup de mal. Parce que chaque objet, chaque écrit, chaque livre représente une partie de mon histoire que j'ai bien en moi, que je savoure. Mais malgré tout... J'ai peur d'oublier, en fait, je crois.
Et je pense que beaucoup, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs sont dans votre cas. Et Alexandre Crécio, dans votre émission Cleaners, sur TFX, vous rencontrez des tas de personnes, comme Rosemary.
Dans cette situation un petit peu de... Je dirais de détresse presque. On est dans l'humain. On est face à une personne où vraiment on se ressent le besoin d'aller aider. Alors nous, cleaners, quand on intervient chez des personnes, c'est très encadré. On est dans l'accompagnement. On est dans le on va vraiment amener la personne d'un point A à un point B, c'est structuré, on a réussi à faire quelque chose maintenant au bout de 6 saisons, mais au quotidien, il y a des milliers de Français qui vivent dans cette situation, et de plus en plus, post-Covid,
mais
on est dans
ça. Mais que faire face à cet attachement émotionnel aux objets? On l'entend bien chez Rosemary. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que Marie-Pierre Dillenzinger, vous avez peut-être une...
Quelque chose à dire, hein, je pense que ce que soulève très justement Rosemary, c'est la question des mémoires qui sont liées aux objets. Nous sommes aussi les réceptacles de meubles, donc d'objets, donc son service par exemple, qui appartenait aux générations précédentes et dont nous devenons non seulement les héritiers, mais les réceptacles. Donc là se pose la question de la loyauté. Parce que se défaire de l'objet, c'est une chose, mais lorsque nous ne l'avons plus, le lien avec ces générations passées, c'est personnes perdues, parfois très aimées, disparaît. Donc là, je pense que il est important d'être suffisamment bienveillant avec soi-même et de respecter ou d'identifier parmi l'ensemble de ces objets celui qui est le plus symboliquement et réellement connecté avec ces liens que nous ne souhaitons pas perdre ou que nous ne sommes pas encore prêts à lâcher.
Et Rosemary, un dernier conseil tiré des livres d'Alexandre Crécieux, pour désencombrer, pour faire le tri, il y a plusieurs critères, c'est l'utilité, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça procure du plaisir, est-ce que cet objet me procure du plaisir, la valeur personnelle évidemment,
et temps aussi, le temps d'utilisation, c'est-à-dire que si on a quelque chose qu'on n'a pas vu, ou on ne sait plus, dont on ne connaît plus l'existence depuis plus de 2 ans, voire un an, ça peut être éventuellement un objet dont on peut se débarrasser, mais encore une fois, en faisant un don. Donc on a cette nostalgie sur certaines choses, sur un service à manger en porcelaine. On a une nostalgie, mais on peut également le donner et lui donner une seconde vie.
Et peut-être, Rosemary, peut-être acheter une sorte de boîte ou de petite malle où vous allez mettre vraiment les objets les plus importants de votre vie, et puis peut-être vous détacher d'autres objets. Merci en tout cas de nous avoir appelés, Rosemary. Il est 11h moins le quart, il est temps de retrouver les Français mode d'emploi de Jérémy Pelletier.
Regardez Salomon, regardez.
Combien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée, c'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde.
Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès, alors que se sont tenus lors des 2 derniers week-ends le Festival du Livre de Paris au Grand Palais et Quai du Polar à Lyon, vous vous intéressez ce matin au rapport des Français à la lecture.
Et oui, Ali, est-ce que nos chers Français aiment encore lire des livres? Quand on se balade dans les librairies, quand on voit le nombre de nouveaux livres publiés chaque semaine, on pourrait en effet se dire que tout va très bien au Royaume de France et au Royaume des livres. Des communiqués de presse reçus chaque jour dans nos boîtes mail pour annoncer un nouvel ouvrage, et vous savez ce dont je parle. Des événements à gogo pour présenter des auteurs, des livres tous aussi chocs les uns que les autres pour dénoncer tel ou tel scandale ou pour proposer au gouvernement telle ou telle politique à mettre en œuvre. Des posts LinkedIn façon tartine pour dire à quel point ce livre est important. Des livres et encore des livres. Et des commentaires sur les livres qui dégoulinent de partout sur les réseaux sociaux. Bon, mais est-ce qu'ils sont lus, tous ces livres? Parce que c'est quand même l'objectif à la fin. Eh bien, mon cher Ali, nous sommes en droit de se poser la question quand on regarde les derniers chiffres publiés par l'Institut Ipsos dans une étude sur les Français et la lecture réalisée pour le Centre National du Livre depuis 2015. C'est une étude qui est réalisée depuis 2015, donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un peu de perspective sur le temps long. Premier enseignement, et ça ne vous surprendra pas, les Français lisent de moins en moins. 56% des Français seulement déclarent être des lecteurs réguliers. Et sachez que c'est 5 points de moins par rapport à ce qu'on mesurait en 2023, donc il y a 2 ans. Deuxième enseignement, le nombre de Français qui disent avoir lu au moins 5 livres au format papier au cours de l'année, ce chiffre-là baisse par rapport à ce qu'on mesurait il y a 2 ans. Ils sont 57% aujourd'hui contre 61% en 2023. Troisième enseignement, et non des moindres, la situation est extrêmement préoccupante chez les jeunes de moins de 25 ans. D'abord, seulement une toute petite moitié d'entre eux se définissent comme des lecteurs réguliers. Et surtout, la situation se détériore de façon très impressionnante par rapport à ce qu'on notait en 2019. À l'époque, 81% des jeunes avaient lu au moins 5 livres au cours de l'année. En 2025, c'est 15 points de moins, on est tombé à 66%. Enfin, quatrième enseignement de l'étude, même au sein de la communauté des lecteurs réguliers à laquelle vous appartenez, évidemment, mon cher Ali, on lit moins qu'avant. 45% lisent tous les jours ou presque. C'est le taux le plus bas jamais atteint depuis 10 ans dans cette enquête. Conséquence de tout cela, quand on regarde les derniers chiffres de vente de livres en France qui datent de 2024, on constate une baisse de 3% des ventes par rapport à l'année précédente et un chiffre d'affaires pour le secteur de l'édition qui avait baissé par rapport à l'année 2023. Secteur par ailleurs, il faut le rappeler, qui est fortement concurrencé par le marché de l'occasion qui ne cesse, lui, par contre, de grimper depuis 2015 et qui devient une habitude d'achat pour près de 40% des lecteurs.
Alors Jérémy Pelletier, comment expliquer cette baisse de la lecture chez les Françaises et les Français?
Eh bien d'abord, comme vous en doutez, nous avons un gros problème de concentration. 30% des lecteurs nous disent qu'ils font autre chose pendant qu'ils lisent. À titre d'exemple, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, ce qui n'aide bien évidemment pas à terminer un livre. Et plus de 30% nous disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer suffisamment pour lire des livres. Et c'est encore plus massif chez les jeunes lecteurs. Près de 40% d'entre eux disent envoyer des messages pendant qu'ils lisent. Deuxièmement, on a un gros problème de disponibilité, comme le ménage. On consacre 31 minutes par jour en moyenne à la lecture des livres. On a perdu 10 minutes de lecture par jour en 2 ans. Et surtout, si on cumule, on a perdu plus d'une heure de lecture sur l'ensemble d'une semaine en 2 ans. La concurrence est rude, les gens disent ne plus avoir assez de temps dans leur vie et la lecture a du mal à se battre contre les autres loisirs et notamment contre les écrans. Enfin, on a un gros problème de flemme. Alors je sais que certains n'aiment pas ce terme, sans doute car il renvoie à une réalité de la société qu'on ne veut pas trop voir. Malheureusement, plus de 20% des non-lecteurs dans l'enquête Ipsos que je citais tout à l'heure nous disent que ce qui les inciterait à lire davantage, c'est une lecture plus facile qui leur demanderait moins d'efforts. Je répète, une lecture plus facile qui leur demanderait moins d'efforts. À ce rythme-là, ChatGPT va donc devenir l'auteur préféré des Français, surtout s'il propose des coloriages et des gommettes à coller. J'en profite dans ma conclusion pour dire, vous, cher Ali, que vous avez encore la chance d'avoir des lecteurs et qui peuvent vous retrouver ce soir à la librairie Comptoir des Mots pour présenter votre nouveau polar. C'est une librairie dans le 20e arrondissement de Paris.
Merci, mon cher Jérémy. Et on peut retrouver tous les épisodes des Français Mode d'Emploi sur l'appli Radio France. L'actu de la Fondation Jean Jaurès, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre site toujours bien fourni, bien achalandé?
Eh bien, cette semaine, on peut retrouver un dossier sur l'impact de l'entreprise aujourd'hui sur la politique. Ah. Est-ce que l'entreprise a remplacé le politique pour mettre des messages dans le débat public, pour défendre des positions? Donc c'est une belle enquête qu'on vient de sortir. Et vous pouvez aussi retrouver une très belle note de Denis Maillard qui nous fait une petite analyse de 50 ans de politique de RSE au moment où Donald Trump envoie des courriers aux entreprises françaises
RSE,
pour leur demander...
C'est
la responsabilité sociale des entreprises. Et donc on a fait une petite rétrospective sur les politiques de RSE au cours des 50 dernières années en France.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment réussir son grand ménage de printemps avec Alexandre Crécio, alias le viking du ménage, avec la coach en organisation Lina Medjeberana et avec l'autrice Marie-Pierre Dillenzegger. Alexandre Crécio, trois produits à avoir absolument dans son placard, trois produits naturels, au-delà du vinaigre blanc, du pigar, bonnette de soude qu'on connaît par cœur, vos trois produits essentiels.
Essentiels. Le savon noir, qui lui va vraiment être une base nettoyante, dégraissante. L'acide citrique qui va être une base avec un pH très acide qui va travailler le calcaire, qui va casser le calcaire, qui va vraiment désodoriser. L'acide citrique, c'est utilisé dans l'alimentaire, c'est utilisé dans tous les domaines.
C'est pour détartrer l'acide
citrique?
C'est
pour détartrer, ouais.
Est-ce que ça se dilue? Est-ce qu'il y a des précautions d'emploi avec l'acide citrique?
Oui, on le dilue, c'est une poudre blanche, des petits cristaux comme ça, qui se diluent dans une eau tiède, surtout pas froide. Parce que
et
ça
concrètement,
se dilue pas.
Je l'utilise pour quoi faire?
On en fait fondre dans de l'eau tiède ou chaude. On le gélifie un petit peu avec de la gomme de xanthane. La gomme de xanthane, c'est un gélifiant naturel qui est utilisé en pâtisserie, qu'on trouve partout aujourd'hui. On le gélifie un petit peu, ça devient une espèce de gel ultra détartrant. Vous le mettez sur vos chromes, dans votre salle de bain, sur votre baie vitrée de douche. C'est vertical. Donc, quand on met du vinaigre dessus, ça coule. Ça reste pas et ça s'applique pas et donc ça n'agit pas. Les produits naturels, il y a toujours un petit temps d'action pour que ça rentre en action.
Acide citrique, savon noir, et le troisième.
Et percarbonate de soude qui lui va remplacer la javel.
C'est quoi exactement?
C'est un blanchissant qui est même utilisé dans l'industrie de la lessive et autres. C'est un blanchissant naturel, toujours, qu'on utilise avec une eau à partir de 40 degrés. Et là, ça remplace toutes les javelles du monde. On en met dans la machine à laver, ça va blanchir le linge blanc, les carrés des maquillants non jetables on les fait tremper après avoir servi. Ça enlève tout le maquillage qui est très gras. Enfin, vraiment, c'est très
utile. Redonnez le nom.
Percarbonate de soude.
Et ça se trouve assez facilement. Ouais. Tiens, Cédric, vous parliez de procrastination tout à l'heure, Jérémy Pelletier. J'ai acheté un livre pour lutter contre la procrastination. Je le lirai demain. Message très drôle. Et nous accueillons notre journaliste et programmatrice Lysiane Larbani. Vous êtes lancée dans le rangement de vos tiroirs et placards, paraît-il.
Oui, je vais aller un petit peu à rebours de ce qu'on dit, les trois produits essentiels pour nettoyer, parce que moi, ce qui m'a donné une folle envie de nettoyer, j'avoue, c'est TikTok, et c'est le phénomène qu'on voit beaucoup sur TikTok qui s'appelle le Clean Talk. Le Clean Talk, c'est vraiment le royaume des produits ménagers, le paradis de la lingette, l'empire du gel WC. Si je devais résumer aux auditeurs ce qu'est le Clean Talk, en gros, ce sont des vidéos dans un rythme ultra rapide avec une dernière musique à la mode en fond sonore. Et bien, on voit des mains recouvertes de gants de nettoyage qui éliminent la moindre saleté. Des vidéos satisfaisantes, pour reprendre un peu.
Je vous sens très satisfaite.
Qui me satisfaite beaucoup. Des vidéos satisfaisantes, voilà, c'est un adjectif très à la mode chez les jeunes. On voit du liquide vaisselle, de la mousse et des éponges. Vous savez, ces éponges en forme de smiley qui récurent les fours les plus dégoûtants. Et clairement, je ne suis pas la seule à être tombée dans le clean talk. Le hashtag cumule plus de 150 milliards clean de vues quand même. Clean talk pour nettoyer et TikTok.
TikTok,
clean talk. Et c'est vrai que c'est un contenu qui est coloré, qui est efficace, qui me donne envie d'acheter, j'avoue, ce fameux balai serpillière rotatif, la mousse à paillettes pour les toilettes ou cette gamme de produits rose vif qui réunit les deux passions des femmes. C'est bien connu, le ménage et le rose. Et d'ailleurs, vous en doutez, sur Clean Talk, ce sont en majorité des utilisatrices qui passent le balai. Donc oui, derrière cette folle envie de vider mon intérieur et de nettoyer dans le moindre détail, se cache aussi un business bien juteux. Oui, voilà. Dans cette course effrénée à l'ultra-propreté qui nous garantit pureté et sérénité, on nous enjoint à surconsommer des produits ultra-chimiques. C'est pour ça que je voulais demander à nos invités ce qu'ils pensaient du Clean Talk.
Fallait pas me demander à moi.
Oui, mais ça, c'est une réponse en soi. C'est une réponse en soi, Alexandre Crécio. Voilà, on a compris. Merci beaucoup, Lysiane Larbani. C'était votre dernière semaine avec nous, mais parce qu'on va vous laisser écrire votre essai qui sera publié en février prochain sur les escrocs amoureux, on a le droit de le dire. Bah oui, parce que vous allez travailler dur pour nous pour proposer un bel essai.
Dans ma grotte.
En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec vous, Lysiane Larbani. Tiens, un dernier conseil, s'il vous plaît, Alexandre Crécio, pour nettoyer les joints de encrassés de la salle de bain. S'il vous plaît, Alexandre Crécio.
Eh bien, il y a une pâte à créer qui est toute simple. Il y a du savon noir. On retrouve notre ami le savon noir. Ouais. On va y ajouter un tout petit peu d'acide citrique qu'on va faire fondre à part avec de l'eau chaude.
D'accord.
Disons, une cuillère à soupe de savon noir, une cuillère à soupe d'acide citrique avec une cuillère à soupe d'eau très chaude pour que ça fonde. Et ensuite, on va y rajouter du blanc de meudon.
Du blanc de meudon.
OK.
Qu'on trouve partout. Hein, dans...
Ouais, qu'on trouve partout. Surtout, oui, petite précision, quand vous achetez des produits naturels, ne partez pas sur des produits qui se trouvent dans des boîtes en plastique. Privilégiez ceux qui se trouvent dans des paquets Kraft. Mmh. OK. C'est encore une fois du commerce. On achète l'emballage.
Donc, acide citrique, blanc de meudon.
Savon noir.
Voilà.
Un temps pour temps. Donc, temps de les mêmes quantités. On mélange le tout. Ça fait une grosse pâte à crêpes un peu épaisse. Une petite brosse avec des poils durs. On frotte chacun de ses joints. Voilà. Action mécanique.
Et il est satisfait, Jérémy Pelletier.
Non, mais c'était pour poser les joints.
D'une autre émission. Merci beaucoup, Marie-Pierre Dillenzeiger. Bien chez soi, c'est publié chez Robert Laffont. Merci, Lina Medjeber. Merci, Anna. 30 jours pour trier, ranger, respirer, c'est publié chez Larousse. Et merci, Alexandre Crécio.
Merci.
Et ça, j'en fais quoi? C'est publié chez Le Duc.
Ouais.
Et également, ne jetez plus l'éponge avec des tas de conseils et de recettes.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.